Chapitre 6e. Il voyagea. Il connut la mélancolie des paquebots, l'effroi réveillé sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume des sympathies interrompues. Il revint. Il fréquenta le monde et il eut d'autres amours encore. Mais le souvenir continuel du premier les lui rendait insipides. Et puis, la véhémence du désir, la fleur même de la sensation, était perdue. Ses ambitions d'esprit avaient également diminué. Des années passèrent, et il supportait le désœuvrement de son intelligence et l'inertie de son cœur. Vers la fin de mars 1867, à la nuit tombante, comme il était seul dans son cabinet, une femme entra. « Madame Arnoux, Frédéric !» Elle le saisit par les mains, l'attira doucement vers la fenêtre, et elle le considérait tout en répétant « C'est lui, c'est donc lui !» Dans la pénombre du crépuscule, il n'apercevait que ses yeux sous la voilette de dentelle noire qui masquait sa figure. Quand elle eut déposé au bord de la cheminée un petit portefeuille de velours grenat, elle s'assit. Tous deux restèrent sans pouvoir parler, se souriant l'un à l'autre. Enfin, il lui adressa quantité de questions sur elle et son mari. Ils habitaient le fond de la Bretagne pour vivre économiquement et payer leurs dettes. Arnoux, presque toujours malade, semblait un vieillard maintenant. Sa fille était mariée à Bordeaux et son fils en garnison à Mostaganem. Puis, elle releva la tête. « Mais je vous revois, je suis heureuse. » Il ne manqua pas de lui dire qu'à la nouvelle de leur catastrophe, il était accouru chez eux. « Je le savais. » « Comment ?» Elle l'avait aperçu dans la cour et s'était cachée. « Pourquoi ?» Alors, d'une voix tremblante et avec de longs intervalles entre ses mots, « J'avais peur, oui. » Peur de vous, de moi. » Cette révélation lui donna comme un saisissement de volupté. Son cœur battait à grands coups. Elle reprit. « Excusez-moi de n'être pas venu plus tôt. » Et désignant le petit portefeuille grenat couvert de palmes d'or, « Je l'ai brodé à votre intention, tout exprès. » Il contient cette somme, dont les terrains de Belleville devaient répondre. Frédéric la remercia du cadeau, tout en la blâmant de s'être dérangé. « Non, ce n'est pas pour cela que je suis venu. Je tenais à cette visite, puis je m'en retournerai là-bas. » Et elle lui parla de l'endroit qu'elle habitait. C'était une maison basse, à un seul étage, avec un jardin rempli de buis énormes et une double avenue de châtaigniers montant jusqu'au haut de la colline d'où l'on découvre la mer. « Je vais m'asseoir là, sur un banc, que j'ai appelé le banc Frédéric. » Puis elle se mit à regarder les meubles, les bibelots, les cadres, avidement, pour les emporter dans sa mémoire. Le portrait de la maréchale était à demi caché par un rideau, mais les ors et les blancs qui se détachaient au milieu des ténèbres l'attirèrent. « Je connais cette femme, il me semble. »« Impossible, » dit Frédéric. « C'est une vieille peinture italienne. » Elle avoua qu'elle désirait faire un tour à son bras, dans les rues. Ils sortirent. La lueur des boutiques éclairait par intervalles son profil pâle. Puis l'ombre l'enveloppait de nouveau. Et au milieu des voitures, de la foule et du bruit, ils allaient sans se distraire d'eux-mêmes, sans rien entendre, comme ceux qui marchent ensemble dans la campagne sur un lit de feuilles mortes. Ils se racontèrent leurs anciens jours, les dîners du temps de l'art industriel, les manies d'Arnoux, sa façon de tirer les pointes de son faux col, d'écraser du cosmétique sur ses moustaches, d'autres choses plus intimes et plus profondes. Quel ravissement il avait eu la première fois en l'entendant chanter. Comme elle était belle le jour de sa fête à Saint-Cloud. Il lui rappela le petit jardin d'Auteuil, des soirs au théâtre, une rencontre sur le boulevard, d'anciens domestiques, sa négresse. Elle s'étonnait de sa mémoire. Cependant, elle lui dit « Quelquefois vos paroles me reviennent comme un écho lointain, comme le son d'une cloche apportée par le vent. Et il me semble que vous êtes là, quand je lis des passages d'amour dans les livres. Tout ce qu'on y blâme d'exagérer, vous me l'avez fait ressentir, dit Frédéric. Je comprends, Werther, que ne dégoûtent pas les tartines de Charlotte. Pauvre cher ami. » Elle soupira et après un long silence, n'importe, nous nous serons bien aimés. Sans nous appartenir pourtant. Cela vaut peut-être mieux, reprit-elle. Non, non, quel bonheur nous aurions eu. Oh, je le crois. Avec un amour comme le vôtre, et il devait être bien fort pour durer après une séparation si longue. Frédéric lui demanda comment elle l'avait découvert. C'est un soir que vous m'avez baisé le poignet entre le gant et la manchette. Je me suis dit, mais il m'aime, il m'aime. J'avais peur de m'en assurer, cependant. Votre réserve était si charmante que j'en jouissais comme d'un hommage involontaire et continu. Il ne regretta rien. Ses souffrances d'autrefois étaient payées. Quand ils rentrèrent, Madame Arnoux ôta son chapeau. La lampe, posée sur une console, éclaira ses cheveux blancs. Ce fut comme un heurt en pleine poitrine. Pour lui cacher ses déceptions, il se posa par terre à ses genoux et, prenant ses mains, se mit à lui dire des tendresses. « Votre personne, vos moindres mouvements, me semblaient avoir dans le monde une importance extra-humaine. Mon cœur, comme de la poussière, se soulevait derrière vos pas. Vous me faisiez l'effet d'un clair de lune par une nuit d'été, quand tout est parfum, ombre douce, blancheur, infinie. Et les délices de la chair et de l'âme étaient contenus pour moi dans votre nom, que je me répétais en tâchant de le baiser sur mes lèvres. Je n'imaginais rien au-delà. C'était Madame Arnoux, telle que vous étiez, avec ses deux enfants, tendre, sérieuse, belle à éblouir et si bonne. Cette image-là effaçait toutes les autres. Est-ce que j'y pensais seulement? Puisque j'avais toujours au fond de moi-même la musique de votre voix et la splendeur de vos yeux. » Elle acceptait avec ravissement ses adorations pour la femme qu'elle n'était plus. Frédéric, se grisant par ses paroles, arrivait à croire ce qu'il disait. Madame Arnoux, le dos tourné à la lumière, se penchait vers lui. Il sentait sur son front la caresse de son haleine, à travers ses vêtements le contact indécis de tout son corps. Leurs mains se serrèrent, la pointe de sa bottine s'avançait un peu sous sa robe, et il lui dit, presque défaillant, « La vue de votre pied me trouble. » Un mouvement de pudeur la fit se lever, puis, immobile, et avec l'intonation singulière des somnambules, « À mon âge, lui, Frédéric, aucune n'a jamais été aimée comme moi, non, non. À quoi sert d'être jeune? Je m'en moque bien. Je les méprise, toutes celles qui viennent ici. Oh, il n'en vient guère, » reprit-il complaisamment. Son visage s'épanouit, et elle voulut savoir s'il se marierait. Il jura que non. « Bien sûr. Pourquoi ?»« À cause de vous, » dit Frédéric en la serrant dans ses bras. Elle y restait, la taille en arrière, la bouche entrouverte, les yeux levés. Tout à coup, elle le repoussa avec un air de désespoir, et comme il la suppliait de lui répondre, elle dit en baissant la tête, « J'aurais voulu vous rendre heureux. » Frédéric soupçonna Madame Arnoux d'être venue pour s'offrir, et il était repris par une convoitise plus forte que jamais, furieuse, enragée. Cependant, il sentait quelque chose d'inexprimable, une répulsion et comme l'effroi d'un inceste. Une autre crainte l'arrêta, celle d'en avoir dégoût plus tard. D'ailleurs, quel embarras ce serait! Et tout à la fois par prudence, pour ne pas dégrader son idéal, il tourna sur ses talons et se mit à faire une cigarette. Elle le contemplait, tout émerveillée. « Comme vous êtes délicat! Il n'y a que vous, il n'y a que vous !» 11 heures sonnèrent. « Déjà ? » dit-elle. « Au quart, je m'en irai. » Elle se rassit, mais elle observait la pendule, et ils continuaient à marcher en fumant. Tous les deux ne trouvaient plus rien à se dire. Il y a un moment, dans les séparations, où la personne aimée n'est déjà plus avec nous. Enfin, l'aiguille ayant dépassé les 25 minutes, elle prit son chapeau par les brides, lentement. « Adieu, mon ami, mon cher ami. Je ne vous reverrai jamais. C'était ma dernière démarche de femme. Mon âme ne vous quittera pas. Que toutes les bénédictions du ciel soient sur vous. » Et elle le baisa au front comme une mère. Mais elle parut chercher quelque chose et lui demanda des ciseaux. Elle défit son peigne. Tous ses cheveux blancs tombèrent. Elle s'en coupa brutalement, à la racine, une longue mèche. « Gardez-les. Adieu. » Quand elle fut sortie, Frédéric ouvrit sa fenêtre. Madame Arnoux, sur le trottoir, fit signe d'avancer un fiacre qui passait. Elle monta dedans, la voiture disparut, et ce fut tout.